Et bonjour à toutes et à tous.
Je peux vous dire que oui, on est satisfait. Nous avons accord complet de l'ensemble des pays du G20, de l'ensemble des pays de l'OCDE, de l'ensemble des pays de l'Union européenne, de la plupart des pays en voie de développement. Nous avons à cette heure-ci 136 pays sur 140 pays. Ça fait 95% de l'économie mondiale. Donc on a un accord historique. Ça arrive une fois par siècle. Le dernier, c'était en 1928.
Historique, il est heureux, Pascal Saint-Amand. C'est un Français, c'est lui le responsable de tout ce qui est fiscalité à l'OCDE. Il est la cheville ouvrière de cet accord mondial pour la taxation des multinationales à un taux minimum de 15%. Alors ce matin, il y a les enthousiastes, comme Pascal Saint-Amand, et puis il y a les sceptiques. Je retiens trois critiques. Une imposition à 15% vue de France, ça n'est pas très impressionnant. Les pays émergents risquent d'être mal servis, oui, en comparaison de l'Europe et des États-Unis. Et puis, il va bien falloir comprendre ce qui a été lâché dans la négociation, les concessions, les exemptions, pour réussir à embarquer jusqu'à l'Irlande et la Hongrie. Alors ok, tout cela est vrai, recevable, et les avocats fiscalistes ont sans doute encore un beau terrain de jeu devant eux. Cependant, ce matin, entendons surtout ce coup de sifflet retentissant. La course au moins 10 ans fiscal vers le 0% d'impôt, la bataille autodestructrice des États, la mondialisation sans régulation de la finance, ça n'est plus acceptable, c'est écrit et tout le monde a signé. Un retournement des mentalités par rapport aux années 80, que chacun paie sa juste part d'impôt, que le numérique ne s'échappe plus. Alors d'accord, ça n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est quand même le bon chemin.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour, bienvenue, c'est le magazine de l'économie. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Notre invité ce samedi, c'est une vigie de l'économie. Il a un droit de regard sur notre argent. Il sait ce que nous avons sur nos comptes en banque. Il sait si nous consommons, si nous épargnons, si les entreprises font faillite ou si au contraire elles font des marges. Et puis comme il siège au Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, eh bien, il sait ce qui peut se passer pour les taux d'intérêt. C'est le gouverneur de la Banque de France que nous recevons, François Villeroy de Gallo, il sera dans ce studio d'ici 20 minutes. C'est toujours le sujet à la une, la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement a dégainé un bouclier tarifaire pour les ménages, mais que se passe-t-il pour les entreprises? Comment est-ce qu'elles s'adaptent? Qui paiera la facture? Vous entendrez le reportage de Marion Ferrer. Toutes les questions de vie au boulot, on les pose à Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Et ce matin, vous nous parlez de bruit.
Eh oui, de sortes de bruit. Le bruit, le vrai dans l'entreprise et le bruit autour des négociations de salaire dans les branches.
Des négociations de salaire dans les branches.
Okay. Ça fait du bruit.
Ça fait du bruit. On en parle à la fin de cette émission. Rendez-vous juste avant 10h. Mais tout d'abord, comme d'habitude, rendez-vous avec les débatteurs. Ce qui se discute cette semaine en économie, eh ben, ça se discute avec Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour Alexandra.
Et bonjour à vous Éric Heyer.
Bonjour Alexandra.
Directeur à l'OFCE. L'OFCE, c'est le Centre de Recherche en Économie. Vous êtes également membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Bienvenue Éric. Alors cette semaine, elle a été incroyable. On a eu des chiffres réjouissants sur le chômage, sur le pouvoir d'achat. Et donc ce samedi, débat sur la vie en rose et ses nuances.
Le gouvernement met lui en avant un bilan positif sur le quinquennat.
Comment a-t-il évolué ces quatre dernières années? Selon les calculs du gouvernement, il a augmenté de 8% depuis le début du quinquennat.
Il fait de la communication, oui, le gouvernement.
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
Mais moi, je regarde l'ensemble des études et tout le monde dit que les inégalités se sont accrues durant, y compris cette période de pandémie. Il y a de plus en plus de pauvres. Et les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches.
Pour vous, Emmanuel Macron reste le président des riches.
Des très très riches.
Il y a un chiffre qui fait plaisir à voir, c'est celui du taux de chômage. Pourquoi? Parce que l'INSEE nous dit que d'ici la fin de l'année, on aura retrouvé nos niveaux de 2008, donc bien avant la crise, avec un taux de chômage, on va donner le chiffre, à 7,6% de la population active.
De fait, on a une économie qui a été très dynamique en termes de création d'emplois tout au long du deuxième trimestre.
Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE.
On a des créations d'emplois à fin juin qui sont très élevées, et ça c'est du dur. Et donc partant de là, mes équipes, en tout cas de conjoncturistes, sont assez solides aussi sur le fait que le taux de chômage devrait baisser fortement en cette fin d'année.
Je pense que c'est effectivement une très bonne nouvelle. On était revenu au niveau de chômage
d'avant la crise sanitaire. Et là, on pourrait être au niveau d'avant la crise de 2008.
Elisabeth Borne, ministre du Travail.
Ça montre que la stratégie du quoi qu'il en coûte et puis les réformes menées depuis 2017 portent leurs fruits et qu'il y a effectivement beaucoup d'embauches depuis ces derniers mois.
Alors voilà. Vous attendrez, avant que je pétarade d'enthousiasme, qu'on vérifie si c'est vrai, comment et tout.
Jean-Luc Mélenchon, député La France Insoumise, candidat à l'élection présidentielle.
Quand la majorité des emplois qui sont offerts sont des contrats à durée déterminée, souffrez que je ne saute pas d'allégresse. Quand ce soit 3 jours après qu'on vient d'imposer le nouveau mode d'indemnisation des chômeurs, qui va faire perdre 40% de leurs revenus à 1,5 million de personnes, pardon, j'ai pas envie de dire et de sauter en cadence en disant « Ah, tout va bien, c'est formidable, tout le monde respire, le gouvernement a raison ». Non, il n'y a que dans ces statistiques que les Français apprendront qu'ils ont plus d'argent qu'avant.
Eh bien, on va voir si la vie en rose, on peut y croire ou pas avec vous, Laurent Bigorgne. Racontez-moi les bonnes nouvelles. Ça commence donc avec, en début de semaine, on dit le pouvoir d'achat. Mais alors vraiment, sous ce quinquennat, c'est allé très très bien finalement.
Mais oui, ce qu'on nous dit, c'est que une fois que l'inflation est déduite, il aurait augmenté ce pouvoir d'achat du revenu disponible des Français de 8% de 2017 à 2021. À peu près les 2/3 grâce à des salaires et des créations d'emplois, on a entendu dans le petit son, et puis à peu près 1/3 grâce à des mesures fiscales et sociales. À ce pouvoir d'achat s'ajoute une autre donnée macroéconomique dont on discutera peut-être tout à l'heure avec le gouverneur de la Banque de France, c'est qu'il y a énormément d'épargne disponible pour les Français. On attend que ce soit là aussi un accélérateur de la période plutôt agréable et faste que nous vivons pour le moment. Alors, à quoi est due cette augmentation du pouvoir d'achat? C'est vrai qu'il y a eu une baisse de l'impôt sur le revenu pour 18 millions de Français, ça représente à peu près 5 milliards d'euros. Il y a eu la suppression de la taxe d'habitation jusqu'à maintenant pour 80% des Français. Il y a eu des suppression de cotisations salariales, chômage et maladie autour du SMIC. Il y a eu une augmentation de la prime d'activité. Il y a eu des primes exceptionnelles, dites Macron. Et puis, il y a eu pas mal de mesures dans la fonction publique. Ça s'est accéléré ces derniers mois. C'est vrai pour les agents de catégorie C, c'est-à-dire les agents les plus modestes de la fonction publique. C'est vrai pour les enseignants. C'est vrai pour les gardiens de la paix. Il y a eu Ségur de la santé. Et puis, dernier dispositif, le chèque énergie. De sorte qu'aujourd'hui, le gouvernement a envie, et on comprend bien pourquoi, après les gilets jaunes, face à un début d'inflation, on parlait des prix de l'énergie, et puis face aussi, j'imagine, politiquement, à l'accusation de Macron, président des riches, le gouvernement a envie de montrer qu'il a réagi assez fortement et agi pour le pouvoir d'achat des Français.
Éric Heyer, ça c'est ce sont les éléments de langage du gouvernement, en effet, puis il y a des chiffres qu'on nous produit. Comment est-ce que vous lisez ça, vous, à l'OFCE?
Alors, on peut peut-être les nuancer un tout petit peu. C'est-à-dire que le 8%, alors c'est jusqu'en 2022, mais c'est le revenu, comme l'a dit Laurent, le revenu disponible des ménages. Mais attention, voyez, s'il y a plus de ménages, c'est normal que le revenu ait augmenté. Donc, normalement, il faut le corriger de la démographie et de la composition du ménage. Est-ce que vous êtes en couple ou pas en couple? C'est ce qu'on appelle le revenu par unité de consommation. Et quand vous le regardez, c'est plus 8%, c'est 5%. Bon, c'est déjà bien, mais vous voyez, ça fait quand même 40% de moins que ce qu'annonce le gouvernement. C'est vraiment normalement la statistique que l'on regarde. Donc voilà, c'est une augmentation de 1% par an pendant 5 ans. Mais alors, le deuxième bémol, c'est qu'attention, il y a tout de même, il y a une partie de prévision là-dedans. C'est-à-dire que à partir de mi-2021, c'est la prévision. Et dans la prévision, il y a une prévision d'inflation qui est quand même assez optimiste de la part du gouvernement, c'est-à-dire que, vous voyez, le prix du baril, dans leurs prévisions, se stabilise à 70. On est déjà à plus de 80. Donc, imaginons que, mais là, vous allez sans doute en parler avec le gouverneur de la Banque de France, qu'il y ait un peu une spirale inflationniste et qu'il n'y ait pas 1,5% d'inflation. Attention, le pouvoir d'achat ne sera pas aussi fort. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même des bémols qu'il faut avoir en tête. Ensuite, sur le tout même, est-ce que c'est
également
tout le monde
réparti,
gagné,
oui, également. C'est ce qu'on se demande.
Donc, effectivement, quand on le regarde, il y a 4% d'augmentation pour le premier décile, c'est-à-dire les 10% les plus modestes, et que 2% d'augmentation pour le dernier décile. C'est ce que nous disent les plus riches. Alors attention, d'abord, 4% d'un petit revenu, ça fait toujours moins en euros que 2% d'un gros revenu, puisqu'il y a un facteur 8 entre les deux. Vous voyez, en gros, les bas revenus auraient progressé de 300 euros par an grâce aux mesures socio-fiscales, alors que les hauts revenus, c'est 1200 euros. D'accord ? Donc, OK, il y a une réduction des inégalités en pourcentage, mais en euros, c'est quand même assez important à signaler, c'est que c'est quand même beaucoup plus cher vers le haut. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que tout le monde y a gagné dans au cours de ce quinquennat. Ça veut dire que les déficits publics, ça a été financé par du déficit public. Et déficit public qui est dû plutôt à ce qu'on a donné en haut de la distribution. Et donc la question qu'il va falloir se poser, c'est comment on le finance ? Parce que vous voyez, la photographie là aujourd'hui, elle est assez belle, mais avec des déficits et une dette qui a fortement augmenté. Alors si on nous dit c'est pas grave, on peut garder la photo. Si on nous dit attention, il va falloir financer tout cela, eh ben il va falloir savoir comment on le finance. Et si on le finance par des baisses de dépenses publiques ou par certaines taxes qui touchent plutôt les ménages en bas la distribution, ben vous voyez que cette photographie peut être mise en cause.
Alors la photo, oui Laurent.
Oui, la photo peut être mise en cause. Là où quand même il faut insister, c'est que on peut reprendre le quinquennat comme si la crise du Covid ne s'était pas passée. Ce qui est quand même frappant, c'est qu'avec un choc récessif de 8 points de PIB l'année dernière, le pouvoir d'achat des ménages a tenu. Donc de ce point de vue-là, il faut quand même créditer, me semble-t-il, les pouvoirs publics d'avoir fait leur travail.
Et c'est le quoi qu'il en coûte. C'est pour ça qu'Éric commence à parler de déficit.
Voilà, hein. C'est, bien sûr, dire, c'est le quoi qu'il en coûte. Maintenant, ce qui est très compliqué, et c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans Le Petit Son, c'est que la perception des Français n'est pas celle des notes du Trésor, n'est pas celle des notes de Bercy. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un Français sur deux qui estime que son pouvoir d'achat, non, n'a pas augmenté. Ou est-ce qu'on va avoir des gens qui ont le sentiment que leur pouvoir d'achat a été maintenu ou qu'il a augmenté en Île-de-France et parmi les classes aisées? Et c'est là où le gouvernement, politiquement, cherche à faire un travail. Et évidemment, ce travail, il a un coût. Et il a un coût budgétaire qui, d'ailleurs, ne porte pas que sur les deux derniers déciles du revenu à travers la flat tax ou l'ISF. Mais c'est quand même, effectivement, je l'ai dit, hein, des mesures importantes qui ont été prises sur l'impôt sur le revenu. La taxe d'habitation, il y en aura pour 20 milliards ou près de 20 milliards à la fin du quinquennat et en 2023. Et puis, on a un gouvernement qui commence à dire à certains secteurs, bon, vous prenez de la pénurie, par exemple, dans tout ce qui est hôtel, restaurant, café. Maintenant, faites un effort parce qu'en réalité, il y a des secteurs où vous êtes en retard sur la formation professionnelle, vous êtes en retard sur les conditions de travail, vous êtes en retard sur les rémunérations. Donc, on sent bien que le gouvernement est vraiment à la recherche de ce qui permettra d'augmenter le pouvoir d'achat des Français face à un défi, c'est que les Français, eux, y voient d'abord une augmentation des prix.
Absolument, l'inflation. Alors, vous commencez à parler d'emploi, Laurent. Est-ce qu'on peut faire la photo aussi avec vous, Éric Heyer, sur les bonnes nouvelles sur le chômage? C'est-à-dire que ça, c'est quand même le chiffre de la semaine. Oui. L'INSEE qui nous dit, mercredi, mais le taux de chômage, on croyait tous que ça allait être 11%. Et en fait, ça va être 7,5, 7,6 exactement, au troisième trimestre 2021.
Oui, tout le monde a été surpris, personne n'avait prévu cela. Et donc, du coup, il faut quand même essayer de creuser un tout petit peu. Alors, moi, il me semble que la nouvelle qui est assez incroyable, c'est que vous voyez, on crée plus d'emplois alors qu'on produit moins. Vous voyez, alors on est dans un monde maintenant où quand il y a une récession, on crée des emplois. Alors ça, il va falloir quand même qu'on nous explique comment ça fonctionne. Vous voyez, on pensait habituellement, avant la crise, il fallait à peu près 0,8 de croissance pour commencer à créer des emplois. Ben, vous voyez, là aujourd'hui, on est à 1,2% en dessous du niveau d'avant-crise, donc encore une belle récession, et on a créé 145 000 emplois de plus qu'avant la crise. Vous voyez, là, on y perd notre latin d'économiste. Hein, vous voyez, c'est incompréhensible. Alors, de deux choses l'une. Soit maintenant, la productivité est négative. C'est-à-dire, bah, ok, mais
alors la production, il va falloir.
Ouais, alors, c'est-à-dire que vous voyez, quand vous produisez moins, et ben en fait, vous avez besoin de plus personnes pour produire moins. Donc, vous voyez, normalement, bah, on a besoin de moins de personnes pour produire la même chose, puisque normalement, les gains de productivité, l'innovation vous permet d'être plus productive. Et donc là, maintenant, c'est négatif. Alors attention, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Si, justement, bah, dans ce sens-là, ça veut dire qu'on va perdre en compétitivité, vous voyez, parce que si une entreprise maintenant est obligée pour produire moins d'embaucher plus, vous voyez, ça va pas aller. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable, et donc ça veut dire que la messe n'est pas dite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça c'est ma lecture, attention, parce que là, il faut être quand même très prudent et très modeste aujourd'hui parce que on n'est pas sûr de tout comprendre, ben c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait de la rétention de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on gardait des salariés en leur sein. Alors au début c'était financé par de l'activité partielle, maintenant elles le gardent parce qu'elles se disent tiens, il peut y avoir des tensions dans le recrutement, donc je préfère les garder. Mais alors si c'est cela, ça veut dire que la croissance de demain se fera sans emploi, c'est-à-dire que s'il y a plus de croissance demain, les entreprises vont utiliser cette rétention de main-d'œuvre.
Et s'il y a moins de croissance, elles vont la libérer.
Exactement. Et donc si en 2022, vous voyez, il commence à y avoir quelques faillites d'entreprises, que la récession est moins forte parce qu'il y a des tensions sur les matières premières, sur un choc énergétique. Alors attention, c'est-à-dire que le pire est peut-être devant nous. Et le dernier point, c'est qu'il y a quand même encore 200 000 personnes qui sont sorties de la population active. Alors vous voyez, ça aide à faire baisser le chômage. C'est-à-dire que c'est des chômeurs découragés. 200 000 personnes, ça vous fait 0,8 points de chômage en plus. C'est-à-dire que le 7,6 annoncé, il faut rajouter 0,8 normalement, parce qu'attention, ces personnes vont revenir. On leur a dit pendant la pandémie, restez chez vous, soit parce que vous étiez un peu vulnérable, soit parce que de toute manière, il n'y a pas d'emploi. Ces personnes-là, il n'y a aucune raison qu'elles ne reviennent pas. Et donc, pour ces deux raisons-là, moi, je serais quand même assez prudent sur, attention, ça y est, maintenant, le plein emploi est devant nous.
Le 16,6 est quand même un chiffre, en effet, absolument surprenant, Laurent
D'autant
Bigorne.
D'autant plus que si on fait un peu de croissance l'année prochaine, pas autant que cette année, mais peut-être autour de 3,5, 4 points, on pourrait même tomber à 7. Ouais. C'est un chiffre qu'on n'a pas atteint depuis 82.
Et dont on se demande si c'est pas le niveau de plein emploi de la France, c'est ça?
Alors, si j'ai bien compris. Justement, c'est un des points importants dans ce que vient de dire Eric. La baisse de la productivité, elle peut avoir une autre explication. C'est qu'on est en train, peut-être, de faire rentrer sur le marché du travail des gens moins qualifiés. Et il n'est pas anormal que, tendanciellement, il y ait une baisse de la productivité si on parvient, parce que c'est le gros problème de la France. Hein. Je rappelle toujours que le système français, c'est 15% parmi les 18-25 ans de jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni à l'école. C'est seulement 5% en Allemagne. Donc on a structurellement, nous, un problème avec nos non-qualifiés qu'on produit, j'allais dire, beaucoup trop massivement. Il n'est pas impossible, puisqu'on commence à flirter avec le 7,5, peut-être qu'on va continuer à descendre, qu'une partie des gens qu'on ramène sur le marché du travail soient des gens qui justement sont moins qualifiés, d'où cette baisse de la productivité. Mais je suis comme Eric, beaucoup de modestie, donc on regarde ça avec évidemment interrogation. Ce qui est quand même frappant dans cette baisse du chômage, d'abord, ça va plus vite en France qu'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'en Allemagne, on a toujours plus de chômeurs qu'avant la crise? Tout simplement parce qu'ils ont un énorme problème de redémarrage de l'appareil industriel. Il y a des commandes, mais il n'y a pas les composants pour servir les commandes.
Il n'y a pas les semi-conducteurs, il y a des pénuries.
Exactement,
ouais.
Exactement. Mais la France, de ce point de vue-là, s'en sort mieux et c'est heureux. Et puis, il faut bien dire que, deuxième chose, il y a eu énormément, Eric l'a souligné, d'amortisseurs publics. Et ce qui me frappe, c'est que cette baisse du chômage, elle est constatée quand même dans toutes les tranches d'âge et dans toutes les régions, hormis la Martinique. Donc il y a quand même quelque chose qui se produit dans l'économie française qui est, à mon avis, assez intéressant.
Est-ce que, ayant dit cela, donc moi j'entends quand même que c'est un polaroïde, je ne sais pas si vous êtes d'accord d'ailleurs Laurent, c'est un polaroïde et la messe n'est pas dite, dit Eric, le film n'est pas encore terminé. On peut regarder en arrière, grâce à quoi tout ça? Est-ce que c'est le bilan de la politique pro-business commencée sous François Hollande et continue avec Emmanuel Macron? Est-ce que c'est le quoi qu'il en coûte? La photo là, si elle est rose, grâce à qui, grâce à quoi, Eric Heyer?
Bon, c'est multifactoriel, donc c'est toujours difficile de dire c'est ce facteur-là qui a marché. Mais vous voyez, si on se compare aux autres quinquennats, on peut pas dire qu'il y a des meilleurs résultats ce quinquennat-là. Alors bon, mais Laurent l'a répété, il y a quand même une énorme crise de la Covid, etc. Les quinquennats, alors le gouvernement là fait beaucoup de comparaisons avec les deux précédents quinquennats. Mais les deux précédents quinquennats, c'était un peu la catastrophe. Le quinquennat, on va dire Nicolas Sarkozy, c'est la crise de 2008, et donc effectivement pas de pouvoir d'achat, mais attention, c'était une énorme crise. Mmh. Le quinquennat suivant sur François Hollande, c'est un peu mieux. Mais vous voyez, c'est pendant aussi la crise de la dette, on a dû se lancer dans une austérité généralisée partout en Europe, avec le ras-le-bol fiscal en 2015, et donc effectivement un pouvoir d'achat qui a été nettement moindre que cette fois-ci, mais c'était lié à ces politiques budgétaires. Mais si on se comparait au quinquennat précédent, c'est notamment le septennat sous Chirac, et là c'était gigantesque, vous voyez, entre 97 et 2001, c'est là où on a eu le plus de pouvoir d'achat, 2% par an, c'est là où le chômage n'a jamais baissé autant, 3 points de baisse du chômage. Donc vous voyez, on ne peut pas considérer que cette politique-là donne des meilleurs résultats que les politiques précédentes.
Alors, le mot de la fin, Laurent Bigorgne.
Oui, Eric a dit quelque chose de très important tout à l'heure que moi je retiendrai, c'est attention à la situation des finances publiques. Et c'est à mon avis une des ombres au tableau. La deuxième, on n'a pas le temps d'en parler ce matin, il faudrait qu'on parle du commerce extérieur, donc de notre compétitivité.
Le grand point noir de la France.
Et il faut faire attention à ce que la campagne n'aille pas que sur les thèmes de pouvoir d'achat et qu'on pense un peu à la situation des finances publiques et celle de notre compétitivité vis-à-vis de l'Europe et du reste du monde.
Très bien, on en a dans notre assiette pour les prochaines semaines. Eric, Laurent, comme vous l'avez dit, on va continuer cette discussion avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Ça sera dans 3 minutes, mais auparavant, je vous propose de faire une parenthèse. On va aller voir l'économie comme elle fonctionne ailleurs. Et ce matin, direction les États-Unis.
We have reached agreement to extend the debt ceiling through early December, and it's our hope that we can get this done as soon as today.
Le sénateur américain Chuck Schumer, il a une bonne nouvelle. Ça s'entend pas forcément à son ton, mais c'est une bonne nouvelle. Les démocrates et les républicains ont trouvé un accord sur la dette pour dire « yes, we can », oui, l'Amérique peut s'endetter plus. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondant de France Inter aux États-Unis. Alors chez vous, pour dépasser le plafond d'endettement, il faut passer par la loi, ce qui donne lieu régulièrement à un bras de fer au Congrès. En gros, les Républicains estiment que les démocrates laissent les dépenses publiques filer et donc ils bloquent le vote sur la dette pour sonner l'alarme. Mais Sébastien, leur menace, elle est réelle. S'il n'y avait pas eu d'accord, en fait, la première puissance économique de la planète aurait pu faire défaut.
Oui, ça aurait été très compliqué dans 9 jours exactement. C'est la date que la secrétaire au Trésor ici, Janet Yellen, avait fixée pour que les États-Unis ne soient plus en capacité de payer leurs factures. Sans cet accord qui donne un peu le vertige, on est à 28 400 milliards de dollars de dette. Et le Sénat vient de donner son feu vert pour 480 milliards de plus. La Chambre fera pareil la semaine prochaine. Sans cet accord pour relever le plafond de la dette, le 18 octobre, la première économie mondiale se retrouvait en cessation de paiement. Ça veut dire concrètement, impossibilité dès le 18 octobre de payer les salaires des employés fédéraux partout dans le pays. 2 jours plus tard, c'était un retard dans les prestations de sécurité sociale et dans les remboursements d'impôts. Les médecins, les hôpitaux et les assureurs qui avancent les soins aux patients âgés et à faible revenu n'auraient pas été remboursés. Les militaires d'actifs pas payés, sans compter les intérêts de la dette qui auraient commencé à courir le 1er novembre, sachant que ce qui sera voté au Congrès, c'est provisoire, c'est un répit jusqu'au 3 décembre. Les Républicains veulent ensuite que les démocrates se débrouillent dans un processus long et compliqué pour relever le plafond de la dette sur le long terme, alors que les démocrates refusent et considèrent eux, que la dette est le résultat des politiques précédentes des deux partis. Bref, le feuilleton n'est pas terminé.
Donc bras de fer sur le budget, Sébastien, un psychodrame qu'on a déjà observé auparavant, mais cette année qui est exacerbée par la bataille politique autour des gigaplans d'investissement que veut Joe Biden.
Et les négociations ne sont pas terminées. On a évité le shutdown, la paralysie des services fédéraux, mais donc il va falloir voter un budget début décembre. Et puis, il y a effectivement les 2 plans de réforme de Biden à faire adopter. Le plan infrastructure à 1200 milliards de dollars pour rénover ou construire des routes, des ponts, des écoles, des stations de recharge pour véhicules électriques ou pour développer l'Internet à haut débit. Il a été adopté en août au Sénat, mais une 50aine d'élus démocrates progressistes refusent de le voter si 2 sénateurs centristes ne soutiennent pas l'autre plan, les réformes sociales, chiffrées par la Maison-Blanche à 3 500 milliards, qui seront utilisées là pour l'éducation, dans la santé, la garde d'enfants, mais aussi pour la lutte contre le réchauffement climatique. Les Républicains ne veulent pas d'un plan titanesque. Les démocrates peuvent le faire passer seuls, mais leur majorité est trop juste et il faut convaincre donc ces 2 sénateurs centristes, Joe Manchin et Kirsten Sinema, qui trouvent aussi le montant trop élevé. Bras de fer toujours en cours donc, et cette fois au sein même du parti de Joe Biden.
Sébastien Paour, le correspondant de France Inter aux États-Unis. Merci à vous Sébastien et merci à Éric Heyer et à Laurent Bigorgne, les débatteurs de ce samedi 9 octobre. Notre invité vient de s'installer dans le studio 521, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Bonjour à vous.
Bonjour Alexandra Benchaïd.
Gouverneur pour sans doute 2 mandats, puisque celui-ci arrive à échéance, fin octobre. Et cette semaine, on a appris que l'Élysée souhaite vous reconduire dans vos fonctions pour les 6 prochaines années. Une mission que vous acceptez, comme dirait James Bond. Et quel sera le défi d'ici 2027? Question sérieuse.
Merci beaucoup de me comparer à James Bond, mais c'est une proposition du président de la République et elle est maintenant soumise au Parlement. Donc je serai auditionné le 20 octobre. Et si vous voulez bien, je réserverai mes commentaires pour le Parlement. C'est le fonctionnement normal de notre démocratie.
Alors, si vous voulez bien, on va parler de l'actualité. Si vous voulez qu'on parle pas de ce prochain mandat éventuel. L'actualité ce matin, c'est cet accord pour la taxation mondiale des multinationales avec un taux minimum à 15%. Vous qui avez ce regard sur la planète finance, est-ce que ça va vraiment changer la vie des États qui ont besoin d'argent et des citoyens? Est-ce que c'est historique?
Je crois que c'est une très bonne chose. Souvenez-vous, ça fait des décennies qu'on se plaint des distorsions de concurrence, de la course vers le bas de la part de certains États, souvent des petits pays d'ailleurs, qui offrent un refuge commode pour les multinationales. Donc l'idée qu'on va taxer à 15% au moins, c'est un facteur d'égalité fiscale dans le monde. Maintenant, le diable est dans les détails. Il y a énormément de travail devant nous et puis il va falloir que cet accord soit ratifié dans chacun des pays, y compris aux États-Unis. On parlait à l'instant des discussions très difficiles aux États-Unis sur le plafond de la dette. Ça, c'est un problème qu'heureusement nous n'avons pas en Europe. Mais faire passer cet accord au Congrès américain va supposer un gros travail. Mais je crois qu'il faut souhaiter que ça avance. C'est un élément de saine concurrence, enfin d'égalité de concurrence économique et fiscale dans le monde.
Donc pas la fin du chemin, mais le bon chemin.
Oui.
François Villeurde-Gallo, ce matin, on va parler ensemble, si vous voulez bien, de l'inflation qui est largement nourrie par la flambée des prix de l'énergie. C'est un choc que doivent encaisser les entreprises. On va y revenir en longueur, mais d'abord, on écoute ensemble le reportage de Marion Ferrer.
Bonjour. Je suis la journaliste de France Inter.
Ça marche.
Vous êtes la patronne.
Oui, c'est ça. Je suis Madame Boulier. Je suis donc la gérante de la société Le Moulin de la Croix-Nivert. C'est une boulangerie qui est située dans le 15e arrondissement. Pour nous, l'électricité, c'est nuit et jour. Tout ce qui est frigo, surgélateur, congélateur, les vitrines, il y en a certaines qui restent allumées tout le temps. La grosse consommation, c'est surtout le four. Là, on est sur 27 000 euros par an. C'est un gros budget. Et donc, si on parle des 12% d'augmentation qui est prévue à peu près, ça nous augmenterait de 300 euros la facture par mois, environ. Ça représente à peu près un apprenti de 16 ans. Les apprentis, c'est pas eux qui produisent, mais c'est former la relève d'après, quoi. En fait, si le problème, c'est que si je voulais répercuter la hausse, j'augmenterais quoi de 1 centime ma baguette. Par exemple, là, ça fait donc 7 ans qu'on est là, on a augmenté qu'une seule fois le pain, et c'était il y a quelque chose comme 2 ans. Si on augmente trop souvent, bien sûr, les clients, ils vont pas être contents, et la baguette, c'est essentiel pour tout le monde.
Votre contrat, il arrive à terme au 31 décembre. Vous voudriez changer de fournisseur. Donc, ça va être aussi un peu la surprise.
Disons que je sais que quand on change de fournisseur, on arrive à négocier un petit peu le tarif. Il faut que je me dépêche. Il faut que je potasse un petit peu tout ça.
L'électricité flambe, le gaz aussi, comment faire face? Oui, le gouvernement a annoncé un bouclier tarifaire, mais il est destiné aux ménages. Les entreprises, elles, doivent s'adapter au choc énergétique qui s'ajoute au choc de la flambée des matières premières. Tout cela fait grimper le prix de production. Quel sera l'effet sur le prix de vente aux clients? C'est toute la question. Alors Florence Boulier, notre boulangère, elle va d'abord tenter de changer de fournisseur. Elle n'est pas la seule à choisir cette stratégie. Direction Lyon, pour notre reporter Marion Ferrer, elle a rendez-vous avec un courtier en énergie très sollicité en ce moment.
On a pris plus 11 euros depuis ce matin sur le marché de l'ELEC. On a dépassé les 150 euros par mégawattheure. Et ça, c'est la courbe depuis le début de l'année. Janvier, février, mars. Puis après, et là, depuis début septembre, c'est complètement dingue. Et depuis 5 jours, c'est encore plus dingue.
Je m'appelle Julien Tédé et je suis directeur général de Opéra Énergie. Ce qui a été très compliqué pour les consommateurs, en gaz en particulier, c'est que en 18 mois, depuis le printemps 2020 jusqu'à maintenant, on est passé, du point de vue du consommateur, du meilleur des mondes. Avril 2020, le prix du gaz était 12 euros du mégawattheure, plus bas historique. On est passé du meilleur des mondes à la pire situation qu'on puisse imaginer avec un prix du mégawattheure qui est au-delà de 50. Et ça, en 18 mois. Donc on comprend que les consommateurs aient pu se laisser prendre, surtout que tout ça, c'était dans un contexte de crise Covid, donc de grosses incertitudes sur le carnet de commandes, et avec des problématiques à gérer, autres que l'achat de gaz et d'électricité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ne bénéficient plus des tarifs réglementés comme les particuliers, donc c'est plus un prix qui est fixé par les pouvoirs publics, c'est des contrats qu'elles doivent négocier elles-mêmes et qui dépendent, entre autres, des prix de gros du gaz et de l'électricité. Mais les entreprises qui, aujourd'hui, renégocient leurs contrats, en gaz comme en électricité, c'est une situation compliquée. Les industriels, ils subissent cette hausse sur toutes les matières premières, sur les composants informatiques, sur plein de choses. Donc, le gaz et l'électricité, en plus, c'est vécu comme, oui, une mauvaise nouvelle supplémentaire sur laquelle on peut pas trop jouer. Et on observe aujourd'hui des consommateurs de gaz dont le budget gaz double. Et la question qui se pose après, c'est est-ce que j'aurai ou pas la possibilité de répercuter cette hausse de mes charges sur le prix du client final? C'est pas toujours possible. Il y a des secteurs en particulier, je pense notamment au textile. Quand vous êtes dans le BTP et que vous êtes engagé à livrer un chantier à un prix donné, vous ne pouvez pas augmenter vos prix. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir des entreprises qui peuvent être mises en difficulté par cette explosion des prix de l'énergie. Donc, on entre dans une période inconnue.
Et les entreprises qui souffrent le plus, ce sont les industriels, surtout les électro et gazon intensifs. Les factures augmentent de 30 à 50%. Franck Roubanovitch est le président du CLE, une association de grands consommateurs d'énergie. Il représente la SNCF, la RATP, la Poste ou encore Veolia.
Malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons pas acheté un an d'avance parce que, en fait, l'an dernier, quand on aurait dû acheter pour 2022, quand les prix étaient très bas, c'était la pleine crise Covid, personne n'avait de visibilité sur son carnet de commandes. Et puis après, les prix ont commencé à s'envoler, donc tout le monde a patienté. Et puis maintenant, je m'aperçois que 60% des industriels membres du CLE, par exemple, n'ont pas couvert leurs besoins de 2022. Donc il y a quelques heureux élus qui s'y sont pris en avance, mais pour la majorité, ça va être la douche froide. Certains vont pouvoir, par exemple, les compagnies de distribution d'eau, qui sont également membres du CLE, vont faire supporter cette hausse aux collectivités, aux communes, mais parce que c'est contractuellement prévu, ce qui provoquera de l'inflation. D'autres ne pourront pas le faire parce que leurs contrats sont déjà figés, donc seront en grande difficulté. Parmi les membres de mon association, j'en ai qui ont des unités de production en France, mais également en Russie, en Espagne, en Pologne ou ailleurs. Et simplement, je pense à des soucis dans la métallurgie, cette société-là va simplement arrêter ses chaînes de production en France et puis produire dans les autres pays où l'électricité est moins chère. Donc ce sera aussi simple que ça. J'ai une autre entreprise qui va, au jour le jour, décider d'arrêter sa production si le prix du jour est trop cher. Donc, on va rencontrer malheureusement des impacts assez lourds dont personne ne se rend encore compte, mais qui vont être assez délétères pour les entreprises françaises. C'est pour ça que j'espère vraiment que le gouvernement va accepter de remettre en cause la doxa européenne du marché de l'électricité et puis nous permettre d'avoir des coûts d'achat en rapport avec les coûts de production.
Dans ce que vous me dites, ça inclut aussi du chômage technique partiel ou du chômage tout court?
Oui, bien sûr. Je ne sais pas, c'est trop tôt pour vous donner l'ordre de grandeur, mais évidemment.
Changer de fournisseur, répercuter la hausse sur le prix de vente, voire, solution extrême, délocaliser. Les entreprises s'adaptent. Autre option, diminuer sa consommation d'énergie. Yves Guillaume, dirigeant d'une petite et toute récente métallerie, a fait ce choix. J'ai donc repris la route pour le rencontrer. Direction l'Eure-et-Loire, à quelques kilomètres de Chartres. Ici, on fait de la menuiserie, des portails, des garde-corps à partir d'acier et d'inox. Et dans ce très grand hangar, les machines tournent à plein régime et le chauffage au gaz est obsolète. Bonjour.
Bonjour.
Là, du coup, on est chez AT Métallerie, c'est ça?
C'est ça, voilà. Bienvenue dans notre atelier à Bonneval.
Alors, on est sur un budget estimatif de 1500 euros par an pour une consommation, je dirais, normale. Voilà. Mais avec un système de chauffage, je pense qu'on peut largement doubler, voire tripler cette estimation, quoi. Donc ça fera un budget de 3 à 4 000 euros sur l'année, ce qu'on peut absolument pas envisager. On a un système aujourd'hui à gaz, avec des espèces de panneaux chauffants au gaz, dont on sait qu'on va avoir du mal à s'en servir cet hiver, parce que forcément, on ne sait pas encore combien sera la facture, mais on a un petit peu peur, donc on va essayer de trouver des solutions palliatives.
L'électricité...
8 800, 9 000 euros par an, pareil, sur une consommation, je dirais, classique, hein, correspondant à notre besoin. Nos machines, elles tournent toute la journée. Et 9 000 euros sur l'année, c'est un budget qui est quand même énorme. Hein. Si on rapporte ça au mois, ça fait du 850, 800 euros par mois. C'est vu les dépenses, à un moment donné, on va essayer de rationaliser nos coûts. Donc, les solutions peut-être palliatives auxquelles on commence à réfléchir, c'est par exemple l'éclairage. Nous, bon, aujourd'hui, dans notre atelier, on a des systèmes de néons assez vétustes, avec une trentaine de néons, donc forcément, c'est une consommation importante. Bon, bah, on réfléchit éventuellement à l'idée de pouvoir peut-être un jour les remplacer par quelque chose d'un petit peu moins énergivore. Donc, en plus, d'un point de vue environnemental, ce serait forcément un plus aussi, hein, donc ça, peut-être que cette hausse de prix a au moins cette vertu-là, de faire évoluer les modes de consommation.
L'efficacité énergétique serait donc la clé pour les années à venir. François Lévesque en est persuadé. Pour le professeur d'économie à l'École des Mines de Paris, ce choc énergétique n'est pas passager.
L'énergie carbonée, on va voir ses coûts et son prix augmenter durant les prochaines années, les prochaines décennies, si on veut faire en sorte que les émissions de carbone dans l'atmosphère soient réduites et que l'Europe atteigne ses objectifs d'ambition de réduction d'émissions de carbone à l'horizon 2030 et 2050. Donc durablement, en tendance, le prix de l'énergie carbonée va augmenter. Alors on peut espérer que l'énergie non carbonée, en particulier l'énergie renouvelable, prenne le relais et donc on aura là une contre-force. Et puis en France, on a peut-être quand même un peu trop tendance à chercher des solutions à travers la fiscalité, soit en l'augmentant, soit en donnant des coups de pouce sur tel et tel problème. Donc la solution, elle est évidemment de continuer d'inciter les ménages et les entreprises à réaliser des travaux d'efficacité énergétique. Mais je ne vois pas pourquoi ça freinerait la reprise de façon très significative. Toutes les entreprises sont logées à la même enseigne. Ce choc de l'énergie, il affecte les entreprises quasiment du monde entier. Le prix du gaz, il augmente sur la planète entière. Il ne faut pas s'attendre à des comportements qui nuiraient à la compétitivité des entreprises françaises ou des entreprises européennes. Il est relativement égalitaire, ce choc énergétique.
Énergie, les entreprises face au choc. C'était le reportage de Marion Ferrer.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et le gouverneur de la Banque de France est notre invité ce matin. François Villeroy de Gallo, on a écouté ce reportage ensemble. On entend par exemple que le prix de l'eau va augmenter dans certains endroits à cause de la flambée de l'énergie. Il y a aussi la hausse des matières premières. Alors cette inflation, on a entendu ces derniers mois, c'est temporaire. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que le temporaire va durer plus que prévu ?
Alors je crois que ce sujet est évidemment très très présent dans notre débat et puis il est très présent dans la vie des Français et des industriels, on l'entendait. Je crois que sur ce sujet, à la fois il faut être vigilant et il faut garder la tête froide. Il faut être vigilant parce que incontestablement, vous regardez les prix de l'énergie ou les prix de l'essence, ils sont très sensibles dans notre portefeuille. Je rappelle juste que l'énergie, ça représente un peu moins de 10% de notre panier de consommation. Hein. Mais c'est évidemment très sensible. D'autant que c'est très humain, on ressent plus les prix qui montent que les prix qui bougent pas ou qui baissent. Donc on a une perception très forte de cette inflation. Puis pour les industriels, vous parliez des matières premières. Moi, je rencontre beaucoup d'industriels. J'étais hier à Orléans, j'étais jeudi à l'événement Big organisé par BPI France. Ils m'ont parlé de ça.
Et en même temps, ils ne parlent que de cela et ils disent mais ça va durer.
Ils ne parlent pas tout à fait que de cela. Ils parlent aussi d'une reprise qui est forte heureusement, mais il faut garder la tête froide en même temps pour plusieurs raisons, si vous voulez bien. D'abord parce que c'est un phénomène qui est largement lié à la reprise elle-même, qui est très forte, et c'est un phénomène qui est habituel en période de reprise, ça, quand on regarde notre histoire économique. Alors comme il se trouve que la reprise est plus forte, ces tensions, cette poussée inflationniste est plus forte. Ensuite, c'est un phénomène qui devrait rester temporaire, je voudrais expliquer pourquoi, et c'est un phénomène qui est focalisé sur l'énergie et sur certains biens et produits.
Alors temporaire, alors, dites-nous, temporaire, est-ce que jusqu'à quand?
D'abord, il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé les 18 derniers mois, parce qu'on sort d'une période économique évidemment très exceptionnelle. Souvenez-vous, il y a 18 mois, on craignait la chute libre de l'activité et des prix. Ce qu'on appelle la déflation, qui est une maladie économique très grave. Et donc, grâce aux politiques économiques qui ont été menées, puis aux politiques monétaires, on a pu arrêter la chute, et on a même un fort rebond aujourd'hui. Et on le voit aussi dans les prix. C'est un rebond par rapport à une forte baisse qui avait eu lieu l'an dernier. Si on regarde sur 2 ans, Alexandre Ben Saïd, c'est-à-dire depuis septembre 2019, donc on lisse cette chute et ce rebond, les prix évoluent de 1,5%. En moyenne, en rythme annuel, en zone euro, c'est même un peu moins en France, 1,4. Alors, il faut regarder plus précisément ce qui se passe sur l'énergie et ces fameuses matières premières sur lesquelles il y a des tensions. Toujours, le cycle économique amplifie les prix pour l'énergie. On le disait dans le reportage, le gaz était un plus bas historique au printemps 2020. Souvenez-vous, il y a même eu un moment, c'était aberrant, le prix du pétrole était à zéro. Bon, alors aujourd'hui, il y a une remontée très forte, mais d'expérience, ces phénomènes sont toujours une bosse passagère. On observe d'ailleurs, moi j'ai discuté avec les industriels, vous avez certaines matières premières sur lesquelles les prix ont recommencé à baisser. C'est-à-dire
absolument.
Que les tensions ont diminué. C'est le bois ou c'est certains métaux.
Mais
il y a encore des problèmes sur le plastique ou sur les semi-conducteurs.
François Villeroy de Gallo, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est nous avons un phénomène d'inflation. On est quoi? On va être, pendant les mois qui viennent, à plus de 2% d'inflation, c'est ça? Jusqu'à, il faut nous donner une idée aux Français de ce qui les attend jusqu'en 2022.
Je vais vous donner une idée et puis je vais vous expliquer ce qui fonde pour nous cette prévision, qui est d'ailleurs, je le note, la prévision de tous. Mmh. Hein, c'est pas seulement la prévision de la Banque de France ou de la Banque Centrale Européenne.
Ça va durer combien de temps ?
Tous les organismes internationaux, c'est de dire que l'inflation va connaître un point haut dans les mois qui viennent, mais va ensuite baisser,
je vais être très précis,
redescendre sous 2% en rythme annuel d'ici la fin de l'année prochaine. Voilà. Et ça, c'est notre prévision. Et encore une fois, c'est pas seulement la nôtre, y compris c'est les anticipations des marchés et des professionnels. Je voudrais appeler votre attention sur un point important. C'est que j'ai dit que l'énergie, c'était très sensible, mais c'est 10%. Ce qui est le point, le poste le plus important de notre consommation, la base,
oui.
C'est les services, qui représentent près de 50% du panier de consommation. Et ceux-là, ils connaissent une hausse beaucoup plus modérée. Hein. On est à 1,7%. Pensez aux loyers, aux aides à domicile, enfin tous les services que nous consommons, ceux-là, ils bougent pas beaucoup.
Donc ça n'est pas le début d'une spirale, c'est ça que vous êtes
alors,
en train de dire.
Je crois que ça n'est pas le début d'une spirale, même si nous sommes très vigilants. Mais au fond, pour ces deux raisons-là, c'est que le socle de notre consommation, lui, est sage, et c'est l'essentiel de notre consommation, et que ceux qui poussent fort, et c'est vrai que ça pousse fort, devraient être temporaires.
Alors nous sommes à 2%, un peu au-dessus dans les mois qui viennent. En Allemagne, ils sont déjà au-dessus de 4%. Est-ce que vous êtes au Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne ? Certains aimeraient que la BCE, elle calme un peu l'ébullition. On voit que dans certains pays, aux États-Unis, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, les taux d'intérêt commencent à remonter. Est-ce que c'est le moment de faire remonter les taux d'intérêt ? En Europe.
Alors d'abord, nous regardons au Conseil des gouverneurs l'inflation moyenne de la zone euro. Ça, c'est très important. Hein. Il se trouve que l'Allemagne est un peu au-dessus, la France est un peu en dessous, il y a d'autres pays avec des dispersions encore plus fortes, mais on regarde toujours l'intérêt commun européen. Et il y a deux erreurs qu'on peut faire en politique monétaire, si vous me permettez. La première, ça serait de surréagir à des variations temporaires. Parce que si on resserre face à ce qui est simplement une bosse, alors là, vous risquez de casser la forte reprise qu'on a. Et vous savez, ça, c'est très important. C'est qu'une bosse, même si elle est haute, ça ne fait pas une tendance longue. Nous, on regarde la tendance longue et nous garantissons aux Français, aux Européens, qu'on sera autour de 2%. C'est ça qui préserve la valeur de la monnaie. L'erreur de sens inverse, c'est s'il devait y avoir une spirale durable inflationniste, ça serait de ne pas réagir. Mais objectivement, on n'en est pas du tout là aujourd'hui, et le risque de la première erreur est plus important que le risque de la deuxième erreur.
François Villeroy de Gallo, on a vu le SMIC qui est corrélé à l'inflation augmenter mécaniquement. Est-ce que le taux du livret A, je sais que c'est en février, mais mécaniquement, avec vos prévisions, il va augmenter ? On est à 0,5 aujourd'hui.
Alors, on n'en est pas encore à faire les calculs, puisque la Banque de France fera les calculs au mois de janvier, au vu de l'inflation au mois de décembre. Donc, il serait prématuré de vous répondre. Et je rappelle juste qu'il y a aujourd'hui deux formules différentes pour le livret A et pour un produit dont on ne parle pas assez, qui est le livret d'épargne populaire, dont je souhaite vraiment qu'il soit développé. Il y a 15 millions de Français qui peuvent profiter du LEP, il y en a juste la moitié qui y ont accès, et le LEP, lui, il est totalement protégé de l'inflation. Donc on verra ce que donnent les calculs en janvier.
Une question sur le chômage, parce que l'étude qui disait que le taux de chômage en 2021, ça serait 11, au-dessus de 11%, c'est celle de la Banque de France. C'était bon,
Pas seulement, Alexandra Benzaïn.
Bah alors écoutez-moi, c'est celle que j'ai citée. C'était en juin 2020, et puis là, l'INSEE nous dit qu'on va descendre à 7,6%. Au troisième trimestre, qu'est-ce qui explique un tel écart ?
Alors, je crois que tout le monde, effectivement, a eu une bonne surprise sur le chômage, parce que l'activité partielle a très bien fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les entreprises ont gardé leur lien avec leurs salariés, n'ont pas fait de licenciement, et c'est bien. Par contre, elles ont réduit le nombre d'heures travaillées. Donc ça, vous ne l'enregistrez pas dans le taux de chômage, mais vous le voyez dans l'activité partielle. Maintenant, il reste, je crois, un autre grand défi dans la reprise forte qu'on connaît, c'est les difficultés de recrutement.
En France,
la moitié des entreprises nous disent avoir des difficultés de recrutement, alors que nous avons encore un taux de chômage à 8%, beaucoup trop élevé. Donc il n'y a pas de défi plus grand et il n'y a pas de réforme plus nécessaire que de pouvoir augmenter l'offre de travail disponible pour les entreprises. C'est un paradoxe socialement inacceptable d'avoir des difficultés de recrutement alors qu'on a 2,5 millions de chômeurs, des centaines de milliers de jeunes. Et puis, c'est le frein numéro un à la croissance économique en France.
François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. Merci d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci.
Sandrine Foulon. Sandrine, question de vie au boulot. Vous avez choisi ce matin de nous parler du bruit parce que lundi commence la semaine de la santé auditive au travail. Mais vous nous dites que les entreprises font peu de cas des nuisances sonores.
Oui, alors Alexandra, près de la moitié des travailleurs interrogés sur la question déclarent souffrir du bruit. C'est ce que nous dit une étude IFOP réalisée pour l'association Journée Nationale de l'Audition. C'est moins qu'en 2019, mais ça reste élevé. Les ouvriers sont les plus nombreux à en pâtir, les jeunes aussi. 5 cadres sur 10 affirment que ça les gêne. Les salariés qui ont connu les confinements expliquent que le retour en présentiel a accru leur sensibilité au bruit dans les open space et encore plus avec le flex office où les postes ne sont plus attribués. Les appels téléphoniques sont un cauchemar. Une conversation intelligible est plus perturbante qu'un brouhaha. Mieux vaut ne pas comprendre ce qui se dit. Le bruit du boulot peut générer stress, troubles du sommeil, anxiété et même surdité. Or, selon l'association Journée Nationale de l'Audition, cette nuisance n'est pas suffisamment repérée. Les audiogrammes ne sont pas systématisés, y compris pour ceux qui sont les plus exposés. Il faudrait, insiste l'association, adapter la loi de santé au travail et rendre obligatoire la chasse au stress acoustique. On en est très loin.
Deuxième thème de ma vie au boulot ce matin, un arrêt du Conseil d'État, ça aussi ça peut faire beaucoup de bruit, surtout sur le terrain des salaires, et ça vous teniez absolument à nous en parler ce matin, Sandrine.
Oui, les petites révolutions sont souvent techniques, et ce qui s'est passé avant-hier est assez inédit, d'abord parce que, pour une fois, les syndicats, mais aussi le patronat de la branche du commerce, se sont unis pour contester une décision du ministère du Travail. Les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord pour intégrer dans les minima conventionnels des compléments de salaire, comme la prime annuelle, qui équivaut à un 13e mois, et la rémunération des temps de pause. C'est pas rien pour les salariés. Mais au moment d'étendre cet accord de branche, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit appliqué à toutes les entreprises du secteur, ce qui sert à réguler la concurrence, le ministère du Travail a dit non, parce que depuis les ordonnances Macron, la primauté est donnée à la négociation d'entreprise pour supprimer certains éléments de rémunération qui ne font pas partie des minima salariaux. Mais voilà, le Conseil d'État a donné tort au ministère du Travail qui doit même payer 3000 euros à chaque organisation syndicale. C'est plutôt de bon augure pour les autres secteurs qui veulent faire pareil que le commerce. C'est aussi logique à l'heure où le gouvernement demande à 15 d'entre eux de revaloriser les salaires des deuxièmes lignes. La morale de l'histoire est qu'en matière de négociation, il faut toujours s'accrocher aux branches.
Sandrine Foulon, ma vieux boulot, merci à vous, merci à Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi, merci à Céline Hila, la réalisatrice, et à la technique ce matin, Thomas Langlin et Benjamin Troncin.